Et bonjour, je vois que ma petite musique générique plaît beaucoup à mes invités. Ils sont déjà en train de se trémousser. Je sens que l'émission va être encore une fois fort sympathique. Alors, Annick Delefosse au micro de Radio FM+. Tous les vendredis à 11h, retrouvez Scénorama, votre émission dédiée à l'actualité culturelle, avec rediffusion le même soir à 20h, ainsi que le samedi à 12h10, et écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Et sa tête, Bon, heureusement, sa tête discrètement s'est calumée. Alors aujourd'hui, j'accueille la chorégraphe Rita Sioffi pour sa nouvelle création Slaus. Est-ce bien prononcé? Est-ce que mon anglais est bon, Slaus?
Je ne sais pas. Non, pas. Moi je dirais plus Slaus.
Slaus.
C'est vrai que le S à la fin, c'est un peu compliqué, mais en même temps, je voulais différencier qu'il y en avait plusieurs.
Et oui.
Plusieurs Slaus.
Voilà.
Et pas un seul.
D'accord. Alors, votre dernière création que nous pourrons voir sur deux dates exceptionnelles, ce samedi et dimanche dans un cadre unique, le dancing à 7, ça va être super.
Ben, j'espère.
Ah oui, oui, non, mais c'est tellement atypique pour présenter une pièce et je pense que ça correspond aussi tout à fait à ce que vous nous avez préparé. Mais ça, on en discutera pendant
Bien
l'interview.
Sûr.
En seconde partie, le groupe Noir. Ai-je bien prononcé?
Oui,
Noir. Mais alors, j'épelle parce que c'est pas noir comme la couleur. Oui. Ça s'écrit N-W-A-R. Mmh. Ils seront en concert ce samedi à la Secret Place, juste avant Dirty Black Summer. Un concert noir, c'est rare. Oui. Donc, save the date.
Exactement.
N'est-ce pas, Géraldine Giordano?
Save the date.
Eh oui, Géraldine qui est directrice de la programmation du groupe.
Tout à fait.
Alors, Rita Sioffi, vous faites partie des rares chorégraphes, danseuses, femmes montpelliéraines à avoir une vraie reconnaissance en France et au-delà. Mais oui, il faut le dire. Vous terminez cette année un cycle de 3 ans comme artiste associé au ballet alors du Nord, Centre chorégraphique national Roubaix, Hauts-de-France.
Oui,
c'est
tout
bien
à fait.
Ça. Lors du festival Montpellier Danse 2022, on a pu voir la superbe pièce de Dominique Bagoué, Necessito, hein, pièce pour Grenade. Donc c'était avec, que vous avez remonté avec...
les étudiants à Münster du Conservatoire supérieur de Paris.
De Paris, oui, oui. Vous êtes d'ailleurs responsable de la transmission des œuvres de Bagoué.
De certaines.
De certaines
ouais,
œuvres,
de certaines
voilà,
œuvres.
C'est ça.
Ouais, ouais, ouais.
On avait vu aussi, c'était il y a 2 ans, Schnell.
Schnell, c'est Catherine Legrand.
Qu'est-ce qu'on avait vu
Après, moi, j'ai remonté assez fréquemment des extraits de Schnell et Necessito. Disons, je me suis surtout penchée sur ces deux pièces parce que c'est des pièces que j'ai interprétées.
Oui.
Donc, voilà. C'est, ça me semble plus intéressant transmettre sa propre expérience. Même si je pourrais, je crois, dans l'absolu, m'approprier d'autres pièces du répertoire. Mais pour l'instant, voilà,
oui.
C'est surtout autour de ces deux pièces.
Oui, oui, oui. Parce que voilà, je n'ai pas voulu remonter dans le détail, mais enfin voilà, bon, je pense que les gens ont compris, vous êtes d'origine italienne.
Oui.
Mais vous êtes ici à Montpellier depuis combien d'années?
Très, très longtemps. Depuis que j'étais à la compagnie Bagoué. Donc
oui,
le calcul, il est simple. Hein. Dominique, il est mort en 92,
oui.
Donc il faut revenir encore
90,
plus en arrière.
Enfin, les années 80, on va dire.
Voilà. Non, non, je suis arrivée à Montpellier en 89.
89,
voilà.
Ouais.
Donc,
ouais,
ça fait un certain temps.
Oui, un certain temps. Et donc, voilà, une belle route. Alors, dans votre actu, là, enfin, de cette année, vous avez été aussi invitée sur un gros festival en Allemagne.
Oui, en 22, oui. Alors, ma prononciation, ça va être horrible.
C'est pour ça que je vous laisse le dire. Hein,
voilà, Leipzig Festival. En fait, c'est une invitation à Cottbus, par le Stadttheater de Cottbus,
oui.
Par Ruth Heinen, qui était à l'époque la directrice artistique de ce festival, qui est quelqu'un comme ça, qui met ensemble des artistes Et donc, elle appelle un metteur en scène qui vient du Luxembourg, Claude Bardouille, qui a été mon partenaire pendant 10 ans, pour faire les chorégraphies. Claude Bardouille m'appelle, il se crée une espèce comme ça de complicité. L'année d'après, ça c'était en 21, l'année d'après, on me demande d'être l'assistante de Daniel Abad, donc le fils de Claudia Abad, ouais. Le grand directeur d'orchestre, le grand musicien. Et voilà, et j'ai fait tout un travail auprès des comédien de Cottbus.
Oui, c'est bien parce que ça oblige à garder une certaine énergie, je veux dire, aussi bien intellectuelle que physique.
Ah ben ça, de toute façon, l'énergie intellectuelle est fondamentale. Ouais. Je veux dire, c'est pas parce qu'on danse qu'on est dans une énergie physique. On est d'abord dans une énergie intellectuelle.
Ouais. Ah, oui,
enfin,
oui,
moi,
oui.
Je crois fondamentalement que la danse raconte beaucoup.
Ouais.
Parce qu'il y a de la pensée dans le mouvement.
Oui. Alors, partager, transmettre et les prolongements de votre artistique. en tant que professeur, vous intervenez dans de nombreuses structures, milieu scolaire ou auprès de publics
en difficulté,
social, etc. Bon, Slow, c'est votre 21e création.
Bah oui.
Je trouve que c'est énorme.
Ça, c'est pas mal.
C'est pas mal quand
c'est
même.
C'est pas mal,
ouais, ah
ouais.
Oui, oui. Quel est votre secret, Rita? Qu'est-ce qui vous porte là? Qu'est-ce que c'est cette énergie que vous avez en vous?
C'est pas vraiment un secret. Déjà, moi, je suis née avec cette idée en tête de vouloir faire de la danse, de devenir danseuse. Enfin, ma mère, elle m'a toujours raconté que j'avais 3 ans et je disais, mais moi, je vais être danseuse. Et on m'a inscrite à 4 ans dans un premier petit cours de danse de quartier à Rome. Voilà, ça a été vraiment un moteur dans ma vie. Et la danse a été toujours, on va dire, quelque chose de stable dans ma vie. C'est vraiment le lieu... l'activité dans laquelle je me suis toujours construite et réfugiée aussi. Et ça a été vraiment l'élément constant.
Ouais.
Donc je pense que le secret, c'est que j'aime ça, tout simplement. C'est une passion, c'est une façon de vivre pour moi, ouais. The way of life, comme on dirait maintenant.
Mais après, encore faut-il arriver à se produire, ce qui devient quand même assez difficile. Hein, tout ce qui concerne aussi bien la musique, la danse, le théâtre, ça devient compliqué.
Oui. Et puis moi, je suis quelqu'un qui essaye d'être vraiment assez transparent dans ses intentions, dans sa personnalité. Je ne suis pas quelqu'un qui... Et dans des stratégies particulières, j'ai pas de plan de carrière, je suis quelqu'un attaché au projet, je suis quelqu'un attaché aux gens avec qui je travaille. Pour moi, c'est toujours un acte d'amour envers les autres, de faire des pièces, je sais pas, enfin, peut-être c'est un peu exagéré, mais c'est vraiment partagé. Enfin, pour moi, la question de faire lien par la danse est vraiment fondamentale dans mon travail. Donc, ça me fait pas toujours avoir que des amis, hein, cette franchise. Mais voilà, enfin, les choses se font parce qu'à un moment donné, je suis animée par une énergie, une ténacité probablement, qui fait que je me bats pour réaliser mes projets, mes rêves. Et si on veut revenir un peu à la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ici, le dancing, c'est vraiment pareil, c'est un peu une folie parce que j'ai entendu parler de ce lieu, je me suis renseignée, je suis allée le voir et je me suis dit, mais ce lieu, il est parfait pour ma pièce. Et en fait, c'est ma propre compagnie qui produit l'événement. J'ai pas de programmateur. C'est avec les ressources propres de la compagnie qu'on se lance dans ce défi de liberté.
Oui.
Voilà. Je pense que peut-être ce qui m'aide dans ma démarche, c'est un peu de folie, sûrement. Des fois, mes collaborateurs ils me disent « Mais Rita, on ne peut pas se lancer là-dedans, on est trop fragile. » Je dis « Non, on y va et puis on y arrive. » Et aussi, un sentiment de liberté. Moi, j'adore ce métier parce qu'il me permet d'être libre. Des fois, je suis professeur de danse. Des fois, je suis interprète. Des fois, je suis chorégraphe. Je travaille avec des gens. Après, je travaille avec d'autres. Je croise. J'apprends des langues. Enfin, ça m'a ouvert vraiment des multiples possibilités de me réaliser autant qu'être humain et individu. Et j'aime garder ce sentiment de liberté. Donc peut-être le secret, c'est de ne pas chercher la stabilité à tout prix, mais d'être toujours en mouvement et toujours de prendre des risques aussi et de traverser aussi des tunnels où on se dit « Oula, qu'est-ce qui va se passer après ?»
Oui, 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 oui. Et alors, du coup, c'est cette nouvelle création là. Comment a-t-elle mûri dans votre tête?
Alors, non, comme elle a... alors, déjà, il faut dire que c'est une création de la pré-Covid. Donc on a tous connu ce moment comme ça de suspension où on était chez nous à se dire bon, comment je vais passer ma journée aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, voilà. Et finalement ce temps suspendu, moi je l'ai trouvé pas si désagréable que ça. Et dès qu'on a pu bon, déjà moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais nommée artiste associée au CCN de Roubaix, dirigé par Sylvain Groux, juste avant le Covid. Et ce directeur, Sylvain Groux, du CCN, c'est vraiment un fou furieux, qui, dès qu'il a pu, il a essayé de faire des choses. Donc, même pendant le Covid, moi, je prenais le train avec mes attestations, je montais à Roubaix et on allait danser avec le masque où on pouvait. Donc, disons que c'était vraiment une drôle de situation pour moi, y compris avec l'Allemagne, premier projet en 21, qu'on a réussi à réaliser alors qu'on était avec toutes les contraintes, et puis prendre l'avion, tout ça était hyper compliqué. Ouais, ouais. À chaque fois, j'avais peur de rester coincée dans les aéroports. Je me suis fait tester tous les jours, pratiquement. Enfin, j'étais... Voilà. Et pour faire bref, à un moment donné, je me suis dit, mais ce qui est important, après ce temps dans lequel on a été un peu isolé, c'est refaire lien. Donc, je commençais à me dire, mais c'est quoi, finalement, aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ben, je suis en train de vivre une lenteur. Les choses, elles prennent du temps. On ne peut pas faire. Il faut... Et donc, je commençais à m'intéresser à tout ce qu'il y avait à voir avec la question de la lenteur, du ralentir, du ressentir dans la lenteur. Donc, je commençais à lire des textes de philosophie, résonance, etc. etc. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que ça serait intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était intéressant d'explorer comment, à travers la lenteur, on peut éveiller d'autres perceptions dans un monde qui, jusqu'à maintenant, jusqu'à qu'il s'arrête à cause du Covid, on a eu toujours ce sentiment d'accélération, de courir, d'aller vite, etc. Donc, je commence une première recherche autour de ça. Donc, je brasse un peu large. Hein, et puis, en pensant slow food, slow life, slow party, slow parla, je me dis, ah, mais les slow. Et je me suis dit que finalement, il y avait un parallèle à faire, autant que chorégraphe, entre cette question de prendre le temps et la question de cette danse, le slow, qui a été, depuis l'après-guerre, jusqu'aux années 80, une danse qui était extrêmement pratiquée et qui a été aussi un vecteur social, hein. Ça a été aussi un rituel d'émancipation pour beaucoup de gens qui avaient quelle occasion d'être invités à une fête ou à une boum, comme on dit ici, pour rencontrer des gens, pour peut-être enfin exprimer à travers cette danse le désir, le plaisir de la rencontre. Et surtout, ce que je trouvais aussi très intéressante, c'était que cette danse n'a pas de règles. C'est pas comme le tango, c'est pas comme les danses de salon qui ont des chemins très précis qu'il faut respecter. Cette danse, même un paralytique qui peut se balader d'un pied à l'autre, peut la danser. Et donc, à chaque fois, la rencontre se fait en fonction de la personnalité des deux personnes qui vont se retrouver à danser ensemble, avec tout le contexte aussi qui vous met dans un certain état précis de disponibilité ou indisponibilité vis-à-vis de l'autre. Donc, on est vraiment dans un saut dans l'inconnu. Et c'était ce saut dans l'inconnu qui m'intéressait.
D'accord. Alors, Nicolas ou Laurent, là, quels sont vos souvenirs de slow? Vous avez dû danser le slow quand vous étiez...
Quand tu étais petit.
Quand vous étiez gaminou.
j'allais dire que je me retrouvais pas mal dans ce que disait Rita, finalement. Ouais. Puisque en tant que grand timide et très mauvais danseur, dans les booms, ben, j'attendais le slow pour me lever, quoi. Tout simplement.
Et alors, Mais vos, enfin les jeunes femmes, enfin les jeunes filles que vous invitiez répondaient positivement ou pas?
Ouais, mais j'ai pas trop de
ça,
souvenirs.
Ça, c'est dur aussi quand on reçoit.
Ouais, j'étais pas très, j'étais assez mauvais. Non. Oui, ça répondait, mais après je gagnais jamais la partie.
Vous dansiez mal, vous leur marchiez sur les pieds.
Ah oui, très très mal. c'est pas très grave, mais oui, je dansais très très mal.
Si, c'est grave. Et vous, vous
souvenez ? Mais je dansais pas très bien non plus, c'est pour ça que je me suis tourné vers la musique, je pense, quoi. Je me fais mes chorégraphies à moi, derrière mon instrument, derrière la batterie. C'est un peu ça, je vous écoutais beaucoup.
Les grands musiciens sont de piètres danseurs.
Les grands musiciens sont de piètres danseurs, mais...
C'est vrai.
Paraît-il.
Oui. Mais ils n'ont pas toujours le rythme. Ils ont pas, c'est vrai, c'est des mondes, on dirait que c'est des fois des univers vraiment différents.
Bah, moi, je pense aussi interdit beaucoup de choses.
Mais ce qui est intéressant, parce que je vous ai beaucoup écouté, j'ai adoré toute votre histoire et tout ce que vous êtes en train de préparer, mais il y a un parallèle qu'on peut faire entre le musicien, même s'il ne sait pas danser, et l'artiste, la chorégraphe et la danseuse, quoi. C'est la quête de mouvement qui est très très importante, quoi. Et chez un batteur, par exemple, quoi, ce qui va aussi lui donner sa personnalité, je pense, peut-être que plus chez un instrumentiste qui fait des percussions que chez quelqu'un qui va jouer du piano ou chez de la guitare, c'est vraiment la notion de mouvement. Et ça devient une danse. Et le groove se retrouve à travers, finalement, une danse, quoi. Il y a les quatre membres qui se mettent à fonctionner, à bouger ensemble, à trouver une forme de cohésion. Et puis, avec le temps, qui s'affirme comme ça et puis qui s'affine. Il y a un jour, il se passe véritablement quelque chose. Et là, bon, mais c'est plus grave. Si on ne sait pas danser, mais tant pis, c'est pas très grave, quoi. On a trouvé cette façon d'exprimer aussi, à travers l'instrument, finalement, cette envie de danser, cette envie d'exprimer, quoi. Et ça, c'est véritablement génial. C'est peut-être pour ça que moi, je me suis tourné vers la batterie. Parce que j'étais très attiré, je pense, petit, justement, par le mouvement, par la danse, par ces choses-là. Et c'est vrai que je me trouvais très niais et très nul. Et c'est un instrument qui m'a ouais j'ai trouvé ça super. J'ai fait un petit peu de piano avant, mais j'ai voilà. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de liens finalement avec la danse. C'est des trucs qui peuvent d'ailleurs souvent vous danser sur de la musique aussi, sur des musiques percussives ou sur des je trouve qu'il y a un vrai lien, quoi.
Mais alors justement, du coup, puisqu'on parle musique, on va écouter un premier extrait qui est dans votre pièce, qui s'intitule You. Vous voulez nous en dire quelques mots, et puis après ensuite on parlera de la conception sonore.
Oui. Et ben, c'est vrai que quand on commence à toucher à la culture populaire du slow, on s'aperçoit qu'il y a vraiment le vase de Pandore. On commence par un petit slow et puis on en découvre plein et puis on découvre les liens et on découvre que finalement beaucoup de slows ont repris des pièces très connues de Chopin, de Beethoven, de Handel. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a une espèce comme ça de travail de transmission qui se prolonge dans la culture populaire, et on passe de la culture savante jusqu'à la culture populaire. Là, je ne veux pas vous faire tout un tas d'exemples, mais ça me semblait important de toute façon de travailler là-dessus avec un musicien, avec quelqu'un qui s'y connaît. Donc, je travaille sur cette pièce avec Jan van der Krissen, alias Morusque. C'est un musicien formidable, moi je l'adore. Très très compétent parce que c'est quelqu'un qui vient d'études classiques, après de designer sonore. Voilà, c'est vraiment un véritable touche-à-tout qui joue du violoncelle, qui joue du piano, qui a vraiment une culture classique très très importante. Et en même temps, il n'arrête pas de réinventer, de créer un univers musical assez personnel, voire assez absurde des fois, avec des projet participatif sur des choses presque conceptuelles, et qu'il a fait un travail magnifique de à la fois de réinvestir la culture du slow telle qu'on le connaît, les grands morceaux connus, mais de les repersonnaliser, de leur donner une espèce de modernité, de les réincarner.
D'accord,
on parle de musique, mais la musique aussi, ça réincarne.
Alors du coup, le morceau qu'on va écouter, là, You,
c'est de lui.
C'est de lui, d'accord. C'est lui. Pas un morceau.
Non, ça c'est lui.
A... D'accord.
Ça, c'est
lui. On écoute sur Radio FM+.
You. You. You.
Alors, Rita Sioffi, un petit extrait donc, pour votre nouvelle création, Slouz.
Slouz, ça fait slow. Presque de l'allemand.
Voilà, slow, slow. Allez, parlons français. Bon, alors, cet interprète, un musicien. Alors, comme le temps voilà, passe très vite, est-ce que vous voulez... Pourriez nous expliquer les grandes étapes de votre travail. Nous avions d'ailleurs pu voir un extrait lors d'un studio ouvert à l'Agora l'année
oui.
dernière.
Hein. Oui, en novembre, en novembre 22. Et ben, ça a été une longue aventure, hein, parce qu'elle a commencé par une audition. Dès que j'ai pu, j'ai proposé une audition, parce que je me suis dit, bon, ben là, les danseurs, ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de retrouver du lien, ils ont besoin de retrouver les studios. Je suis artiste associée, c'est maintenant qu'il faut que je fasse une pièce avec du monde.
Bien sûr.
J'ai lancé un avis d'audition. J'étais vraiment étonnée de recevoir 500 dossiers, 500 demandes. En même temps, on était encore dans cette histoire un peu ambiguë, Covid, pas Covid. Ouais. Donc, je pouvais mettre dans le studio que 30 personnes.
Ah oui.
J'ai dû faire une sélection draconienne sur dossier. Et puis finalement, j'ai fait passer l'audition en juin 21, je crois, si ma mémoire est bonne. Et voilà, et j'ai trouvé ces 7 danseurs. En réalité, si je pouvais prendre les 30, je les aurais pris, parce que ce qui m'intéresse, c'est la différence entre les individualités.
Oui, c'est ça, ils ont des âges différents aussi.
Oui, ils ont des âges différents, ils ont des parcours différents, ils ont des personnalités différentes, mais c'est comme ça. J'aime la confrontation. Voilà, c'est vraiment une pièce où j'essaye de concilier l'individualité et le faire lien et le faire groupe. Voilà, donc j'ai choisi vraiment ces personnes en fonction de cette idée-là.
Alors ça va de quel âge à quel âge?
Et bien la plus jeune, elle a juste 20 ans. Et le plus vieux, il vient d'en avoir 50.
D'accord. Alors la plus jeune, est-ce qu'elle a connu les slow?
Ah bah, mais il y en a plusieurs qui n'ont pas connu les slow, parce que même ceux qui ont 30 ans, ils n'ont pas connu les slow. Et alors, c'est marrant, parce qu'ils n'ont pas connu les booms comme nous.
Ouais.
Mais par contre, ils connaissent les morceaux de musique.
D'accord.
Par leurs parents, en principe, plutôt par leurs parents, par la culture des personnes plus âgées autour d'eux. Donc, c'est rigolo, parce qu'ils ont cette culture-là sans l'avoir véritablement vécue. Et du coup, ça leur laisse toute la place à l'imaginaire pour se réinventer. Wow. Et en même temps, il y en a aussi qui m'ont raconté que, par exemple, pendant le confinement, ils dansaient des slow à la maison pour passer le temps.
Oui. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là d'une danse, enfin, d'après l'extrait là que j'ai vu, hein,
ouais.
D'une danse de contact et d'une technique assez minimaliste? Quels ont été vos choix là
Eh ben mes choix, c'était qu'on a vraiment approfondi l'avant, c'est-à-dire tout ce qui, moi, ce qui m'intéressait démontrer, c'était ce moment où on va faire le pas. Qu'est-ce qui se passe avant de prendre une décision? Tout cet état comme ça dans lequel on se met et que ça va devenir le moteur d'une action. Donc on a beaucoup travaillé sur la question de l'attente, sur la question de comment je me projette, sur tout ce qui vient avec l'action. l'action de faire le pas vers l'autre. Et comment et par quoi je commence ? Par quoi je commence ? Quand je veux établir un contact avec quelqu'un, par quoi je commence ?
D'accord.
Donc on a travaillé beaucoup la question du regard, la question de l'adresse, la question de la présence, avant de se mettre à danser.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est essentiellement une danse de groupe, entre guillemets, où les danseurs sont plutôt groupés, où il va y avoir des solos aussi
Il y a les deux. Il y a des moments de groupe et il y a des moments de solo, je dirais des moments comme des anticelles, comme ça, qui explosent. Et la pièce, elle est un peu construite par cycle, c'est-à-dire que on peut changer de posture, on peut changer de peau, on peut changer de place. Et donc, selon la place qu'on prend, selon le vêtement qu'on a choisi, on peut aussi se réinventer, parce que c'est vrai que des fois, à travers la danse, on peut découvrir aussi qu'on a une personnalité qu'on croyait pas.
Oui. En fait, c'est vrai, par rapport à ce que j'en ai vu, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très joyeux, de très coloré, avec vraiment des échanges, des beaux échanges. Hein, je me trompe pas.
Il y a un peu de tout. Il y a des moments un peu plus dramatiques. L'extrait que tu as vu, oui, ça a duré à peu près 20 minutes.
Oui,
bien sûr, dure une heure. Donc,
Mais
il y a la place au rêve de l'autre. C'est-à-dire, on est vraiment dans la phase où on se dit. Ah, super, il va y avoir cette soirée, alors on va se faire joli. On a aussi travaillé sur cette question, comment je me prépare à aller quelque part où je sais que je vais rencontrer des gens. C'est vraiment le désir de la rencontre.
Bon, Rita, on est obligé d'arrêter là.
Mais non, que j'étais un peu chaude.
Eh ben oui, hein, je vous sentais partie là.
Ah ben là, si je commence, je m'arrête plus.
Donc, écoutez, nous serons présents, en tout cas, auditeurs, auditrices, notez-le. Il faut vraiment découvrir cette pièce, parce qu'en fait, elle ne va pas être tant jouée que ça pour l'instant dans la région.
J'ai une très, très bonne nouvelle, à part ces deux dates, samedi et dimanche prochain, à 18h30 au Dancing.
Donc, oui.
On a un partenariat avec le Théâtre du Hangar. Donc, on va reprendre la pièce en avril 24.
Super.
À Montpellier.
Super. Mais en tout cas, franchement, non, moi, je viendrai là. J'ai pas encore, je ne sais pas encore si c'est samedi ou dimanche, mais le dancing, ça va être génial là-bas.
Ah
quoi.
Ouais. Ah ouais,
je
ne
sais pas
ouais.
Si vous connaissez Géraldine, vous connaissez les garçons, vous connaissez. Hein. C'est voilà, c'est un ancien dancing, quoi. Donc, c'est complètement.
Ah non, mais
adapté,
c'est fou, c'est un chapiteau dancing qui a été acheté par les organisateurs de bazar à 7 sous le Bon Coin.
Voilà.
Moi, rien que ça, ça m'éclate.
Donc, un tarif unique en plus, attendez, c'est pas cher du tout, 12 euros, à partir de 10 ans. Bon, et donc, le dancing se trouve 54 quai des Moulins à 7. Notre deuxième partie de Scénorama tout en douceur. Magnifique, merci Rita de nous proposer cet extrait donc de votre création Slow. Chers auditeurs, auditrices, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Scénorama, votre émission dédiée à l'actualité culturelle qui a lieu tous les vendredis à 11h avec rediffusion le soir même à 20h, le lendemain le samedi à 12h10, écoutable en podcast sur radiofm+.org. Alors, Nicolas Gromoff.
Oui, c'est bien ça.
Laurent Graziani.
Présent.
L'un à la batterie, l'autre aux guitares. Vous formez le groupe Noir, N-W-A-R. Mmh. Un duo sludge instrumental et sans concession. Vous n'êtes pas des ados qui se lancent dans la musique, hein, les garçons.
Pas tout à fait. Tu nous as grillé d'entrée. Ouais.
Tu nous as pas laissé la moindre chance. Bon, ben, tant pis.
Et ben voilà, nous serons des ados aujourd'hui.
Donc, pour le coup, après tout, oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Alors, bon, vous savez que moi, j'aime tout savoir. Ouais. Donc, après, bon, vous pouvez raconter aussi ce que vous voulez.
D'accord. Donc... J'aime bien l'esprit de cette émission.
Ah, oui, ça commence bien. Nicolas.
J'aime beaucoup, oui.
Je vous invite à nous présenter Laurent. Laurent, vous ferez de même pour Nicolas.
Ah ouais.
Mais oui, et vous allez tout nous dire. Enfin, en mal et en bien, ce que vous voulez, de l'un et de l'autre. Allez.
Laurent, alors, monsieur Graziani, comment je pourrais décrire ? Hyperactif. Surdoué. En même temps, il trouve ce que je vais sortir va peut-être te faire marrer, mais hyperactif, surdoué.
Corse.
Corse, c'est pas faux. Ah. Corse.
Bien placé, Rita.
Merveilleux ami. C'est quelqu'un qui a la foi, quoi, pour travailler avec moi depuis autant d'années. Laurent, c'est l'un de mes plus vieux copains aujourd'hui. Ça fait 35 ans qu'on se connaît. Et on a déjà fait de la musique ensemble. Il y a quelques années, au sein d'un de ses précédents groupes qui s'appelle Lunatic Age.
Je m'en souviens très bien, Lunatic Age.
Voilà. C'était nous.
Ouais.
Et donc, j'ai eu l'occasion de l'accompagner une petite période en 2005-2006. Ça nous a porté jusqu'à Islamabad, au Pakistan. On est allé jouer pour la fête de la musique. Et donc, on ne s'est pas vu pendant quelques années. Et puis, on s'est recroisé dans un supermarché. Le supermarché où nous allons faire nos courses. Il y a, 7-8 ans. Par un total hasard, on a commencé à se revoir et puis à vouloir refaire de la musique ensemble petit à petit. Voilà. Je crois qu'il y avait une partie qui n'avait pas été écrite entre nous encore.
Ouais,
encore. Voilà.
Ouais, ouais.
Des choses qu'il avait envie de faire à cette époque-là, à l'époque où on s'était rencontrés, où on avait fait des choses en 2005-2006. Je me souviens, à chaque fois qu'on faisait les balances pour les concerts de Lunatic Age, on jouait beaucoup tous les deux sur le plateau. Et souvent, il se passait des trucs. Et voilà. Et je sentais que Laurent avait parfois quelques frustrations. Il jouait des riffs. Et bon, quelques années plus tard, on a pu les exprimer tous les deux. Donc, c'est vachement chouette. Mais ouais, ce qui caractérise Laurent, c'est vraiment ça. En tout cas, dans notre rapport à tous les deux, quoi. Son hyperactivité. Noir, je dis toujours que c'est la rencontre entre un hyperactif et un grand dépressif.
Ah oui.
Donc, voilà.
C'est vrai, il est dépressif.
Des fois. C'est moi le dépressif.
Oui.
Mais non, c'est vraiment ça, quoi. C'est parfois le feu et la glace, et ça peut très très bien fonctionner.
Mais alors, du coup, Nicolas, grâce à Laurent, vous n'êtes plus dans la frustration. Puisqu'apparemment, vous étiez à la frustration. Je me trouve.
Je n'ai pas dit frustration.
Vous avez employé le mot frustration.
Moi, je ne me sens pas particulièrement frustré. Hein.
Non, mais vous l'aviez été peut-être à un moment que là, vous n'y êtes plus. Vous pouvez vous exprimer
peut-être,
complètement.
En tout cas, avec le projet noir, c'est sûr qu'il n'y en a plus du tout de la frustration, parce que c'est un peu la liberté totale et on fait un peu ce qu'on a envie. Et vu qu'on n'est que deux. C'est facile de faire ce qu'on a envie.
Oui.
Il n'y a pas trop de parasites.
Et en même temps, c'est courageux de choisir ce duo. Enfin, d'être vraiment, de jouer uniquement en duo et aussi qu'il n'y ait pas de parole.
C'est une nouveauté pour tous les deux.
C'est une nouveauté, c'est une nouveauté pour tous les deux. Je pense que c'est un format qu'on avait envie chacun de notre côté d'aborder. Il y a un truc qui était intéressant là-dedans, c'était d'amener les gens, un public, vers quelque chose de plus onirique, de plus imagé, de plus partant d'eux-mêmes, en fait, en réponse à la musique qu'ils entendent et le mur du son qu'ils entendent, et absolument pas influencé par quelques paroles que ce soit, quelques textes que ce soit. Et c'était très, très important là-dedans de faire ça dans ce but-là. Et aussi, il y avait le challenge de pouvoir les composer, parce que c'est pas rien, quoi. On a quelques morceaux qui font entre 4 et 8 minutes, quoi, et parfois plus. Et il y avait une notion de difficulté véritable et qu'il fallait transcender, à laquelle il fallait répondre, quoi. Et donc tout ça, c'était le challenge. Ça, c'était super motivant. Moi, j'avais un peu peur parce que j'avais pas joué depuis longtemps. Il m'avait un peu sorti de ma torpeur là. Et donc ça a été un peu difficile au début, mais je m'y suis remis très très vite et du coup on a pu y aller après. Et voilà.
Ouais. Voilà. Alors voilà, on écoute. Alors ça c'est le
premier album.
Voilà, premier album.
Premier titre. 2020,
premier titre intitulé 04.
C'est exact.
Alors vos titres dans ce premier album, ce sont que des numéros, si il me
semble. Que des numéros. C'est le sens dans lequel on les a composés en fait.
D'accord. Voilà.
Donc c'est le quatrième morceau qu'on a composé celui-ci. D'accord. On n'a pas voulu les titrer.
D'accord. Voilà. Et pareil. Enfin, il s'appelle Noir.
Le premier album s'appelle Noir.
Noir, ouais. Alors, on écoute un petit peu et on continuera à en parler. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez rentrer un peu plus dans le détail de vos choix, enfin de ce style, voilà, parce que bon, je l'ai dit rapidement pour démarrer, c'est du sludge instrumental. Déjà, peut-être pour certains auditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le sludge? Et puis, j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup plus loin que ça.
L'inconvénient avec les étiquettes, voilà. C'est qu'il y en a tout un tas et qu'on ne sait jamais vraiment à laquelle se raccrocher à un moment donné. Donc, moi, les étiquettes, je laisse plutôt ça aux gens spécialisés. Quoi. Moi, je n'ai jamais considéré que ce qu'on faisait pouvait être du sludge ou du heavy metal voilà, peut-être un esprit plus noise. Parce que sur cet album, il y a un peu beaucoup de codes. Il est un peu codifié dans les normes noise qu'on pouvait trouver dans les années 90, dans la musique qu'on faisait à l'époque, etc., etc. Peut-être. Mais je n'aime pas trop les étiquettes. Quoi.
Oui, je suis d'accord avec ce casse-pied quand il faut vraiment absolument donner un style. Mais alors, du coup...
J'aime bien la notion de, si je peux me permettre, je dirais que c'est un mur du son très poétique. En fait.
Oui, puis il y a un côté, on écoutera deux autres morceaux, mais il y a un côté aussi assez cinématographique, planant. Hein.
Ben, Laurent, peut-être tu peux t'exprimer là-dessus.
Oui, le deuxième album est un peu plus évanescent que le premier, un peu moins rentre dedans. Et certains des morceaux sont aussi illustrés par un peu de sound design, avec donc des apports de voix, des discours, des trucs glanés à droite à gauche pour relever le caractère spécifique de chaque morceau, les ambiances.
Oui, mais ça justement, c'est je trouve ça très très intéressant aussi. Comment vous faites du coup vos choix?
Moi, j'ai un petit fichier texte dans mon téléphone et puis j'écris dessus tout ce qui me passe par la tête en continu et après je brasse. Et il y a des trucs qui ressortent, des idées ou j'enregistre beaucoup aussi avec le dictaphone. Quand j'entends un truc, j'enregistre des ambiances ou quand j'ai une mélodie, je chante à mon téléphone ou je bats le rythme. Enfin, je collecte.
D'accord.
Il travaille en permanence.
Oui.
Oui, parce que tu parlais du tout à l'heure, t'as dit un truc, c'était genre parlez-nous du choix du style.
Oui.
Et je pense que c'est exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'on l'a pas du tout choisi. C'est-à-dire qu'on fait ce qui sort de nous et c'est ce que les gens disent, ou du sludge, ou du hardcore, ou de la noise, ou même du rock progressif. Tu vois, on a entendu un peu tout. Mais je pense qu'à aucun moment c'est une histoire de choix. Voilà.
C'est en vous.
Ben, oui, c'est ça.
Oui, c'est un peu l'instinct de survie, un peu comme le disait Rita tout à l'heure. C'est une condition naturelle.
Ouais. On écoute un deuxième morceau.
Ah, ça, c'est notre slow.
We'll be right back.
Ça danse, ça danse. Donc, je disais, j'aimerais bien que. Voilà, ce morceau est un. Il me semble un bel exemple de la façon dont vous travaillez. Là, justement, il y a. Alors, dites-nous. Il y a la guitare, il y a la batterie, il y a des samples, il y a un discours avec un vrai message.
Oui.
Voilà, expliquez-nous un peu tout ça.
Certains des discours ont été pris sur les Wikileaks quand ils avaient été rendus publics, parce que du coup, bah, c'était libre de droit, donc pratique. Donc, j'ai téléchargé tout ce que j'ai pu, les vidéos, les discours, les fichiers textes, enfin. J'avais récupéré tous les Wikileaks, j'en ai tiré 3-4 extraits de divers sujets, et notamment celui-là. Donc, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est une dame qui s'appelle Farrakhan, et qui était activiste et qui avait attaqué Union Carbide dans les années 80, suite à la catastrophe de Bhopal en Inde.
D'accord.
Voilà. Et du coup, c'est ce qu'elle dénonce, c'est lors d'un procès en fait. Et on a fait un clip et dans le clip on voit aussi les images du procès. On la voit dire ça en images.
Ok. Donc le titre c'est WOTEN ou on le dit en français, en anglais
ouais.
en...
Bon, nous on dit W10.
W10.
Parce que nous, bon. Mais WOTEN c'est sympa quand même.
C'est pas mal.
C'est donc le dixième morceau qu'on a composé.
Voilà. Ouais. Et donc celui-là fait partie donc, de votre deuxième album, Beyond the Sun.
Beyond the Sun.
Voilà, au-delà du soleil.
Mmh. Hein, c'est Nico qui a eu l'idée du titre.
C'est ça.
Qui est aussi le titre d'un des morceaux. De
d'accord.
Des morceaux de l'album.
Donc, sept morceaux, hein, c'est ça.
C'est
ça. Le choix de votre. Du nom de votre duo noir, NWAR, ça vous vient d'où, ça?
C'est un peu anecdotique. C'est un ami qui avait trouvé ça pour je ne sais plus quoi et c'est revenu.
J'aime bien, hein, c'est pas mal.
Il y a aussi un disque de Noir Désir aussi, où il y a un morceau qui est écrit comme ça, NWR.
Moi, ça me fait penser No War.
No, ben oui, il ouais. Y a plein de gens qui disent N-War. Ouais. Ouais, voilà. Ils pensent que c'est le mot War, ouais, aussi. Bah, ça laisse imaginer plein de choses.
C'est ça qui est bien.
Ouais. Bah oui, voilà, oui, c'est important. Oui. Et la typo est pas mal aussi.
Alors ça, c'est Fanny Saint-Pierre, ouais. Une artiste de Frontignan qui avait fait cette magnifique pochette. C'est un tableau, en fait, qu'elle nous a donné.
Je l'adore, elle est vraiment superbe. Bah, voilà,
c'est la crypte des Capucins.
Voilà, c'est très noir, évidemment.
Ouais, c'est magnifique, c'est une peinture.
En fait, on lui avait envoyé les maquettes et elle a dessiné ça en écoutant les maquettes de l'album.
Ah ouais. Ouais, très très beau. Donc, mais justement, là, vous avez décidé, vos albums ne sont pas sortis en CD. Le premier, si peut-être, même pas.
Non, même pas.
Hein, voilà.
Que du vinyle.
Que du vinyle. Hein. Enfin, et puis du, quand même, si. Enfin, c'est passé. Alors, ça a été aussi. Oui, on peut l'évoquer. On a encore un peu de temps. C'était quand même une histoire un peu compliquée pour la sortie du second album.
Disons que
du retard.
Disons qu'il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de retard. Voilà. Je pense que sur toute la chaîne en fait des événements, il y a peut-être quelqu'un qui a pas super bien fait le boulot. Mais c'est pas très grave. Il est arrivé. Il est arrivé un peu en retard, bon, c'est pas grave.
C'était une période où on n'a pas été les seuls perturbés.
Voilà. Et je pense que même à l'avenir, il y aura encore des problèmes de ce type.
Pas beaucoup de presse de vinyle et les majors font presser des palettes de vinyle. Ils passent devant tout le monde et tous les petits comme nous passons après.
Voilà. C'est souvent ce qui se passe malheureusement, mais c'est pour ça que ça traîne un peu. Mais bon.
Il y a de plus en plus de presse maintenant, mais elles ne sont pas toutes professionnelles. Mm-hmm. Et professionnelles, il n'y en a que 3 en Europe, je crois.
Oui. Dans ce style de musique, on va dire.
La presse de vinyle.
Ils font de la presse de
vinyle.
Tout le monde fait ça là-bas.
Oui.
Il suffit qu'il y ait le nouvel Adèle qui sort pour que tout le monde l'ait dans le dos pendant quelques mois. Quoi.
Oui.
Parce qu'il faut les presser. Faut les presser, les galettes.
Oui, c'est
une par une. Hein. Donc voilà, dès qu'il y a un gros titre d'une major qui sort, il y a bouchon.
Donc dès qu'on fait le choix de passer par une presse professionnelle. On est obligé de...
D'être patient. Ou de beaucoup anticiper, vraiment, et de bien cadrer la sortie comme il faut. Mais c'est un élément à prendre en compte.
On avait anticipé l'année 2000, quand même.
Après, malheureusement, il y a les plateformes.
Ouais. Alors Géraldine, je profite que vous disiez quelques mots là timidement pour vous faire parler un peu plus. Vous produisez le groupe, en fait en quoi ça consiste? Expliquez à nos auditeurs et auditrices.
Alors je produis, c'est un grand mot, c'est un grand mot, je ne les produis pas parce qu'on s'auto-produit en fait. Les deux garçons sont assez autonomes au niveau des enregistrements, hein, du mixage. Et après on fait intervenir Bruno Varia qui a le studio Upload. Sur Montpellier aux environs pour le mastering, donc c'est une équipe assez on va dire pas fermée mais assez
réduite.
Ouais. Et donc c'est beaucoup fait on va dire familialement, et donc je coordonne un petit peu tout ça, c'est-à-dire que quand les garçons ils ont bien fait leur taf, qu'ils ont bien créé, qu'ils ont bien enregistré, qu'ils m'ont fait bien kiffer au niveau des écoutes, ben on fait de la com, on fait de la presse, on fait du booking, on fait un petit peu de tout, et puis on chapeaute tout ça, et on essaye surtout de les laisser tranquilles pour qu'ils puissent créer vraiment tranquillement en fait. Dans leur coin.
En fait, Géraldine a le côté sociable que nous n'avons pas.
Eh bien oui. Bah, c'est quand même grâce à elle que vous êtes là aujourd'hui.
Hein. Complètement, exactement. Complètement.
Voilà. Je t'en remercie.
Elle nous est très précieuse, elle le sait. Et c'est vraiment une aventure familiale. Quoi. Ouais. C'est chouette.
Alors,
c'est comme ça.
On va terminer. Je précise quand même que vos deux albums sont sortis sur le label Head Records,
oui.
Qui a fêté ses 20 ans. Hein. On oui. salue Abel.
Oui. Très chaleureusement.
Coucou Abel.
On devait jouer aux 20 ans et on n'a pas pu parce que M. Gromov a eu une petite crise d'appendicite.
Voilà. Oh, c'est malade.
Ah oui, à 50 ans.
À 50 ans, vous vous rendez compte.
Et paf.
C'est malade. Alors je vais terminer justement avec une citation enfin d'Abel Gibert. Hein, et puis en attendant, William, je veux bien que tu mettes donc, le troisième morceau en tapis. Et puis après, une fois que j'aurai terminé, tu pourras bombarder. Alors, en parlant donc de vous, Noir, sur scène, ce duo est vraiment monumental. Leur dernier concert à Victoire 2 et au Rockstore était juste énorme. Laurent fait gueuler sa guitare, tout en maîtrise, en un slug mat rock articulé par Nico à la batterie. Il y a un jeu tellement personnel, du fond du temps. Ça rend leur musique unique dans le paysage musical français. Le disque est immanquable pour les fans de métal moderne. Bon, bah écoutez, c'est bien. Hein.
Moi, j'aime beaucoup ce que dit Abel.
Moi aussi.
Abel en tête.
J'aime bien.
Donc,
Abel, il est bien ce jeune.
Abel, si tu nous entends, tu devras en écrire des plus souvent,
oui.
Des comme ça.
Écris. Donc, Noir, c'est à la Secret Place ce samedi, en première partie du groupe Dirty Black Summer. Ouverture des portes du bar et du food truck à 19h. Prix d'entrée libre et conscient. La Secret Place, c'est à la zone industrielle de la Lauze, 25 rue Saint-Exupéry, à Saint-Jean-de-Véda. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Nous y retrouverons.
Super.
Voilà, super. Donc on écoute le dernier morceau, Hashes. Voilà. Merci, mes chers invités. Merci, Rita.
Merci
Nicolas.
À toi,
merci
Laurent,
FM Plus. Merci à Nico.
Merci infiniment.
Merci à William qui était à la technique. Et merci à vous, chers auditeurs.
Ça fait générique de fin, la musique, c'est pas mal.
Bah ouais. Bye bye.
Ça va peut-être le devenir.